Les bienfaits humains, sociétaux et économiques de la pleine présence. Devenir soi. Profondément, l'entraînement à la pleine présence est une voie éthique et spirituelle humaniste dans laquelle l'on devient soi avec un grand S. La pleine présence est la pratique en laquelle on réalise son bon fond, sa santé fondamentale, sa personne authentique, qui est nommée soi avec un grand S. Le soi n'est pas le soi avec un petit s. Le soi petit s est le moi, l'ego, qui entrave et masque la personne authentique, le soi grand S. Dans une formule, on peut dire que moins il est de soi petit s, plus il est de soi grand S, et finalement que la réalisation de notre personne authentique est soi grand S, sans soi petit s, soi sans ego, c'est-à-dire aussi un soi altruiste, car moins il est d'ego égoïste, moins il est d'égoïsme, plus il est d'altruisme. Ainsi, la pratique de la pleine présence commence par soi petit s, mais ne s'arrête pas à soi petit s, et va jusqu'au soi grand S, l'état de perfection de l'altruisme transcendant le soi petit s. Remarquons que certaines critiques de la pratique de la méditation de pleine présence la présentent de façon erronée comme une pratique individuelle et égocentrique. Ce pourrait peut-être sembler être le cas superficiellement, car on commence à travailler avec soi. Mais c'est profondément tout le contraire. Il est important et nécessaire de commencer le travail par soi, sur soi, dans l'autodiscipline, mais il est indispensable de ne pas s'arrêter à soi d'une façon égocentrique. Le véritable travail sur soi dans la pratique de la pleine présence conduit à l'ouverture du cœur et de l'esprit, à l'ouverture altruiste aux autres et au monde. La pleine présence altruiste, moins d'égoïsme et plus d'altruisme. C'est l'occasion de s'interroger sur une question fréquente et pertinente. La pleine présence est-elle altruiste? Oui, si l'on considère que l'état de pleine présence, comme nous venons de le décrire, va dans le sens de la diminution de la saisie égoïste, c'est-à-dire qu'elle va vers moins de solidité de l'ego-sujet et de ses projections objets. Dans ce contexte, nous reformulerions la question. Est-ce que moins de solidité de l'ego est équivalente à plus d'altruisme? Oui, en comprenant que moins d'ego, moins d'égoïsme, peut être considéré comme étant plus d'altruisme. Égoïsme et altruisme sont inversement proportionnels. Ainsi, la pleine présence développe l'altruisme non égoïste, l'état altruiste, libre d'égoïsme, est l'expérience fondamentale de la pleine présence. En bref, l'état de pleine présence est un état altruiste et, comme nous allons le voir, la pratique de la pleine présence altruiste est un remède à l'individualisme et au matérialisme égotique qui sont à la racine de la plupart de nos maux. Si vous voulez que les autres soient heureux, soyez altruiste. Si vous voulez être heureux, soyez altruiste. La transformation du monde par la transformation de soi. Sois le changement que tu voudrais voir advenir. Nous avons dans notre monde moderne atteint un confort matériel extérieur très important, mais nous manquons souvent du confort que constitue la paix intérieure. C'est une question et un problème de société. Notre société et notre culture sont orientées vers le matérialisme et l'individualisme. Notre système éducatif ne parle guère des valeurs intérieures et de l'altruisme, et il est fort dirigé vers les valeurs extérieures et l'égoïsme. Les changements profonds dont notre monde, l'humanité, notre société ont besoin, ne peuvent venir que de changements collectifs, c'est-à-dire d'un ensemble de changements individuels. Mais il tient à moi de commencer le changement. Ce n'est que si chacun commence par soi qu'un changement collectif pourra advenir. Vouloir transformer les autres sans se transformer soi-même est illusoire. Pour développer la paix extérieure, il est nécessaire de trouver la paix intérieure au niveau individuel. C'est en sachant nous transformer dans nos comportements et nos modes de vie que nous pourrons changer le monde. C'est par la confiance en soi et dans une vision altruiste du monde que nous pourrons résoudre les problèmes que nous avons créés. Nous ne pouvons pas changer le passé, mais l'avenir peut être changé. C'est notre responsabilité dans le présent, dans la pleine présence. La transformation du monde passe par la transformation de soi, et la transformation de soi passe par l'entraînement à la pleine présence. À l'origine des crises, la saisie cognitive. À l'origine des crises écologiques, économiques, sociétales, humaines, se trouve une crise cognitive, une crise de la conscience, de l'être que je suis. Le problème est que nous nous sommes exilés de la nature, de notre nature, en un monde mental, rien que mental, dans une bulle de conscience mentale qui nous coupe de la nature, de notre nature. Cette bulle mentale est faite de nos saisies cognitives, illusions et projections, les fixations du mental et de l'ego. Notre hypertrophie mentale nous fait vivre dans un monde virtuel, clos. Cette hypertrophie mentale va largement de pair avec une hypertrophie de l'ego. Plus il est de saisies cognitives, plus il est d'ego. Nous souffrons en quelque sorte d'une égoïte aiguë, dont les symptômes sont notre individualisme et notre matérialisme égoïste. Le mental et l'ego nous exilent de la nature, en même temps ils nous exilent de l'instant présent, nous entraînant constamment à ressasser le passé ou à anticiper l'avenir. La pratique de la pleine présence nous apprend à ne pas partir dans le passé ou l'avenir, et à revenir à l'instant présent, faisant corps avec celui-ci. Le passé et l'avenir sont mentaux, seul l'instant présent est vraiment réel. En ce sens, la pratique de la pleine présence est une voie d'incorporation de l'instant présent. La dimension sociale de la pleine présence, savoir-être et vivre ensemble. L'entraînement à la pleine présence cultive une ouverture et un comportement altruiste qui permettent d'être en harmonie avec son environnement humain et naturel. Cette ouverture altruiste, libre de violence égoïste, est l'espace d'un bien-vivre ensemble harmonieux. La nature humaine est fondamentalement altruiste. Elle est fondamentalement altruiste avant d'être égoïste. L'altruisme non égoïste, caractéristique de la pleine présence, est notre nature profonde. Nous sommes des animaux sociaux et notre bien-être individuel dépend du bien-être du reste de la société. Nous sommes tous interdépendants. C'est ainsi qu'en faisant le bonheur des autres, on accomplit son propre bonheur. Si vous voulez être heureux, soyez altruiste. Malheureusement, comme nous venons de le dire, notre société met aujourd'hui trop l'accent sur l'individualisme, nous sommes trop centrés sur nous-mêmes. Pourtant, dans la réalité de notre monde contemporain, complètement interdépendant, notre futur dépend de celui des autres, du reste de la communauté, dépend d'une coopération solidaire dépassant l'égoïsme, véritablement altruiste. Nous avons besoin de développer le sentiment d'unité de la famille humaine. Notre nature humaine est la même. Notre aspiration humaine au bien-être est le même. Nos intérêts fondamentaux sont convergents. Dans l'expérience de cette unité de la nature humaine, de notre dénominateur commun, nous pouvons développer coopération et solidarité. La violence égoïste vient du sentiment illusoire de séparation, et à l'inverse, le sentiment d'unité amène paix et solidarité. Nos problèmes viennent d'un manque, d'une incapacité à avoir des pensées et des comportements bienveillants, altruistes. La pleine présence nous y entraîne. Notre vie n'est jamais exempte de problèmes. Dans la vie, nous rencontrons toujours des difficultés, mais comme nous l'avons vu dans l'étape 5 sur notre relation aux pensées et aux émotions, ce qui compte face aux difficultés est notre attitude mentale, la relation que nous développons avec nos problèmes. Une relation non conflictuelle à un problème est en elle-même une solution. Même si extérieurement nous sommes dans l'agitation, nous pouvons intérieurement être calmes et non violents. Le facteur déterminant est notre attitude, notre état mental. De plus, notre relation au monde détermine notre perception de celui-ci. Voir les choses dans une perspective plus large, plus ouverte, est source de paix et d'humour et de bien-être. De plus, lorsque nous sommes investis dans un engagement altruiste, lorsque nous aidons vraiment, nous avons le sentiment d'être utiles aux autres, et ce sentiment amène confiance en soi et une vie pleine de sens. Prendre soin des autres nous fait être moins seuls et donne sens à notre vie. Corps et esprit sont interdépendants. La santé fondamentale favorise la santé physique. Si le mental est sain, le corps est plus résilient et il peut mieux supporter la maladie physique. Trop de soucis et de tensions entravent la guérison. Nous devrions donner plus d'attention à nos valeurs intérieures et les développer plus. Nous pouvons relier cerveau et cœur. La raison et la bonté peuvent se compléter. La pleine présence altruiste fait de nous des humains sains. la dimension économique de la pleine présence, l'économie de modération. L'économie de modération heureuse est une discipline qui commence à être enseignée dans des universités américaines, et certains la considèrent comme un moyen de sauver l'économie mondiale et d'opérer un renouveau civilisationnel. L'approche de l'économie de modération heureuse considère comme plus important le bonheur et la liberté que l'accumulation de possessions. C'est une économie éthique fondée sur la valeur des échanges interpersonnels réels plutôt que sur la spéculation capitalistique qui produit de l'argent virtuel à partir de rien. Cette économie donne plus d'importance aux valeurs intérieures, ce qui permet d'optimiser le bonheur personnel en offrant plus de bonheur avec moins de ressources. C'est une économie qui ainsi prend soin à la fois de l'espèce humaine et de la planète Terre, tout en accomplissant le bien-être et le bonheur de tous. Notre économie de consommation-combustion, basée sur la consommation à outrance, a produit des montagnes de déchets et détruit l'environnement. Elle a créé d'immenses inégalités, les riches le sont de plus en plus, et les pauvres vivent toujours dans des conditions misérables. Dans notre interdépendance, nous ne pouvons pas rester insensibles devant cette situation. Nous avons besoin d'une économie moins consumériste et moins égoïste. L'économie de marché actuelle repose sur trois présupposés erronés, à savoir que les personnes ne sont qu'égoïstes, centrées sur elles-mêmes, et qu'elles ne prennent soin que d'elles-mêmes. 1. Qu'elles sont toujours dans des désirs égoïstes insatiables pour construire un style de vie extravagant. 2. Et que l'environnement est une ressource intarissable que l'on peut consommer de façon illimitée. 3. Ce modèle fondé sur la consommation nous a conduit à une impasse. L'économie de modération heureuse est fondée sur trois principes. La nature humaine fondamentale est bonne et altruiste. 1. Ce qui est le contraire de l'idée selon laquelle chacun ne poursuit que son propre bien égoïstement. Les humains sont interconnectés entre eux, 2, et ils sont connectés à la nature, 3. Ils ne la dominent pas, mais en font partie dans une interdépendance généralisée. Le désir d'avoir toujours plus finit par induire un cycle d'insatisfaction, de malheur et de désespoir. L'approche de la modération heureuse préconise une simplicité volontaire. Elle propose une économie de moyens dans une limitation des désirs, en vivant en harmonie, dans l'interconnexion qui nous lie avec les autres humains et avec la nature. C'est une économie sociale de coopération, de solidarité et d'entraide. Le modèle économique de la transmission de la pleine présence est basé sur la générosité. Il suit les principes de cette économie de modération heureuse.